pour parler d'un procès. Parce que je l'avais reçu le 19 mai, au sortir du confinement. Et cette émission, le livre pour lequel je l'avais reçu, est poursuivi par Anne Verlon. Et exceptionnellement, j'ai décidé de le recevoir pour en parler. Donc vous restez à l'antenne, un autre pas de quartier suit pendant une heure. Merci chers auditeurs, portez-vous bien.
Et la semaine prochaine, dans 15 jours, tu reçois nos copines
De Casserole.
Tu l'annonces, non?
Oui, le magazine féministe libertaire a pris libre.
Merci.
Merci.
Merci. Bonne soirée. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su.
que pèse notre bulletin de vote. Face à la loi du marché, c'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera.
Bon, chers auditeurs de Pas de Quartier, je reçois Thierry Gadeau pour une heure.
Bonsoir.
Très vite, pour son livre qu'il a coécrit avec Marc Échinger, L'homme qui en savait beaucoup trop. Alors, révélation
d'un agent au cœur
des secrets d'État. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Anne Nouvergeon? Elle attaque Marc, mais pas toi. Pourquoi?
Enfin, si, moi aussi, mais elle a commencé par Marc. En fait, c'était quand? C'était au milieu du mois de juillet. Marc a reçu une plainte pour devant la 17e chambre correctionnelle
du tribunal. Qui est la chambre de presse.
La chambre de presse pour diffamation. Donc une citation d'Anne Lauvergeon et de son avocat, maître Jean-Marc Fédida, pour son interview qu'il a donnée à Denis Robert sur le média.
Je suis scandalisée. Je t'ai donné une interview de 90 minutes et ça, tu n'es pas poursuivi pour ça.
Non, moi je suis pas poursuivi. Donc, clairement, Anne Lauvergeon, effectivement, craint les paroles, les propos de Marc Échinger, et donc a attaqué pour diffamation. Et malheureusement, alors cette plainte doit être jugée vendredi prochain.
D'où l'urgence de notre émission, justement.
voilà, à la fin de la semaine, là. Et dans cette plainte, alors il y a des fausses informations, puisqu'il dit... paraît qu'il va y avoir un livre, mais il n'est pas encore publié. La plainte a été rédigée début juillet et le livre était sorti en format numérique au 18 juin avec une communication tout à fait normale de l'éditeur. Donc tout le monde pouvait voir que le livre était sorti. Donc c'est déjà.
Et je l'ai lu pour préparer l'émission du 19 mai.
Exactement. Et puis, y avait d'autres choses, c'est que dans cette plainte, il devait y avoir des annexes, et les annexes n'ont pas été fournies à Marc Échinger, et il a averti l'huissier qui a remis la citation, il a averti le cabinet d'avocats, il a averti le procureur, et donc il arrive le 25 sans pouvoir se défendre, puisqu'il n'a pas la plainte complète. Donc évidemment, il y a un vice de procédure, et normalement, en toute logique, le tribunal devrait rejeter cette plainte. C'était la semaine dernière, nous avons reçu, Marc, moi, l'éditeur Florent Massot et le Média TV, puisque le Média est co-éditeur du livre, une double plainte, une double citation, toujours devant la 17e chambre, cette fois pour un procès qui se tiendra, si la date est exacte, début décembre, deux fois 75 pages, deux plaintes pour diffamation, donc contre nous, contre le livre, et avec toujours le même processus, à savoir que il y a des pièces annexes, des pièces jointes, des annexes qui sont annoncées. dans la plainte, mm-hmm. qui sont identifiés par un numéro de pièce jointe, de pièce annexée, mais nous ne les avons pas. Donc moi, quand Lucier m'a remis les deux plaintes, hein, puisqu'il y en a une sur le format numérique et une sur le format papier, j'ai vérifié cet état de fait, je l'ai fait constater par l'huissier, donc sur les remises, j'ai écrit qu'il manquait les plaintes, que la plainte était incomplète et que... Mais je veux dire... Bon, on peut imaginer la première fois, il y avait une erreur, un oubli, un truc, un machin. Bon, pourquoi pas. Mais quand ça devient systématique d'oublier des pièces jointes, des annexes et de rendre impossible la défense des personnes attaquées, on peut se demander si en fait... Et donc, on sait que la plainte in fine sera rejetée par le tribunal pour vice de procédure. On peut se demander si Anne Lauvergeon souhaite véritablement un procès ou si plutôt une procédure... pour pouvoir dire dans tout Paris qu'elle a porté plainte contre nous pour diffamation et ainsi menacer les confrères qui pourraient être tentés de nous inviter ou de parler de notre livre en disant « Faites attention, si jamais vous les invitez, vous allez connaître le même sort qu'eux ». Ce qui marche plutôt jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, la presse est très frileuse de parler du livre, mm-hmm. pour inviter Marc, pour que Marc raconte son expérience d'agent des services de renseignement, d'enquêteur qui a lutté contre la corruption, contre le crime, la grande criminalité internationale, d'enquêteur qui a révélé le scandale Uramine, qui a coulé à Areva, faut quand même le rappeler. Donc, le livre est sorti il y a maintenant, 12 jours.
Oui, c'est
12 jours, oui, c'est ça. Et c'est vrai que les rares invitations qu'on avait, pareil,
se sont volatilisées.
Il n'y a plus que la presse étrangère francophone qui s'intéresse à nous. Donc, on peut se demander effectivement si ces plaintes sont pas quelque part des procédures Bayon.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'affaire Uramine pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours et mm-hmm. qui n'auraient pas écouté l'émission du 19 mai, qui est en ligne sur le site de Louise Michel, du groupe Louise Michel.
Oui, bien sûr.
Et je voudrais que tu présentes Marc, aussi par la même occasion.
D'accord. Alors, Marc, je vais commencer par Marc. Marc Échinger, c'est un ancien... trader, directeur de salle de marché, ça c'était pour sa vie officielle, tout à fait réelle. Et puis il avait une vie officieuse d'agent des services de renseignement français, des services de renseignement extérieurs. On peut pas en dire plus, on peut pas les identifier, mais tout le monde sait de qui il s'agit. À partir de 2003, en fait, très rapidement après la chute des tours jumelles du World Trade Center. Marc l'explique dans le livre, il va s'engager activement sur le terrain et notamment aller au Moyen-Orient pour faire la chasse à la corruption, au détournement de l'aide américaine à la reconstruction en Irak, parce qu'après l'avoir détruit, ils ont quand même injecté beaucoup d'argent, qui sont partis, qui ont été volés et qui ont été répartis dans des mafias de tous les côtés, rendant impossible la reconstruction du pays. Et donc, la spécialité de Marx, c'est ça, c'est de remonter les fils de la corruption internationale, les fils de la grande criminalité internationale, du blanchiment d'argent sale, etc. Donc, il a travaillé là-dessus sur le terrain pendant 4 ans en Irak, en prenant des risques physiques significatifs. Et puis, ensuite, pour le compte, et toujours en parallèle pour le compte des services français, il a aussi beaucoup enquêté sur les trafics miniers en Afrique. Mmh. Et là, il a été confronté, ça l'a impacté directement. Il en parle, d'ailleurs, quand on l'interview, ça l'a impacté. Il a vu concrètement ce que ça voulait dire, la corruption dans les pays africains, à savoir l'extrême pauvreté, les infrastructures qui n'existent pas.
Ou qui sont déliquescentes.
Ou qui sont déliquescentes. Le moindre argent part est détourné. Et puis la montée derrière, qui favorise la montée des extrémismes, des guerres civiles, et puis surtout de l'extrémisme islamiste. Donc voilà, ça c'est Marc. Et puis en 2010... C'est là où on se retrouve avec l'affaire Areva Uramine. En 2010, évidemment, il y a un service de sécurité au sein d'Areva et le directeur de ce service de sécurité, qui est un ancien amiral, qui s'appelle Thierry Darbonneau, qui a été le patron de la force stratégique navale française, hein, de la force nucléaire. le convoque, puisque c'est le spécialiste au sein des renseignements sur toutes les affaires de corruption et de détournement d'argent, et lui dit, voilà, moi, j'ai des doutes sur une opération que nous avons réalisée en 2007, ça s'appelle Uramine, est-ce que vous pouvez examiner et me dire ce que vous en pensez ? Et donc, Uramine, en 2010, ne défraie pas la chronique, au contraire, Areva s'apprête à inaugurer une usine de dessalement d'eau de mer qui est construite en Namibie, soi-disant pour l'un des gisements d'uranium apporté par Uramine. Donc tout va très bien. Et donc c'est la première alerte vient de là, et c'est comme ça que Marc va se retrouver impliqué dans le scandale Areva-Uramine. Donc on revient quelques années en arrière, en 2007. En 2007, Areva a besoin de reconstituer son portefeuille minier. Il n'a pas grand-chose en stock et donc il est obligé d'acquérir des nouveaux gisements d'uranium. Mais sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a des sociétés, ce qu'on appelle des juniors minières, qui sont l'équivalent dans l'industrie minière des start-up, c'est-à-dire des boîtes qui ont des permis de quelque chose, des potentialités. C'est souvent du vent, c'est presque toujours du vent, mais bon, qui font rêver, qui peuvent avoir une communication agressive et puis trouver un pigeon pour les racheter plus ou moins cher. Donc, Uramine fait partie de ces juniors, de ces sociétés juniors, avec deux hommes d'affaires au passé très trouble, et ils ont acquis les permis d'exploration et d'exploitation de trois gisements, un en Afrique du Sud, un en Namibie et un en Centrafrique. Et donc très rapidement, à peine les deals sont faits, qui viennent frapper à la porte d'Areva dès le début de l'année 2005 ou fin 2005, début 2006, en disant mais ouais, rachetez-nous. Et donc en octobre 2006, il y a un premier accord qui est monté où Uramine accepte de se vendre pour de mémoire 470 millions de dollars. Et puis donc Areva dit oui. Et quelques jours plus tard, Uramine dit bah, tout qu'on fait, non, on se vend plus. Et puis, les négociations vont monter, vont traîner. Le cours d'Uramine, puisque c'est coté en bourse à Toronto, va commencer à flamber. Donc là, on peut imaginer des délits d'initié. Et au final, mi-juin 2007, donc on est encore dans les élections, la suite des élections présidentielles en France, donc une période assez instable politiquement en France. Areva et l'État donne son feu vert à Areva pour racheter Uramine pour un prix de 2,5 milliards de dollars, 1,8 milliard d'euros. Le problème, c'est que tous les géologues d'Areva, ou les principaux géologues d'Areva, de vieux géologues d'Areva, étaient contre cette opération parce qu'ils savaient que ces trois gisements n'étaient pas des véritables mines d'uranium. C'est ce qu'ils expliquent tous, notamment à la brigade financière et aux juges qui aujourd'hui instruisent les enquêtes. Ils disent, mais on savait que c'est ce qu'ils appellent des sites, c'est-à-dire il y a effectivement de l'uranium, mais souvent à des niveaux de concentration trop faible pour que ça soit rentable, quel que soit le prix du marché. Mmh. Et donc, évidemment, quand on sait que Areva avait en interne toutes les informations, mais a quand même racheté ces sites qui valaient une poignée de cacahuètes, qui ne valaient rien, quoi, pour 2,5 milliards de dollars, avec des gens qui sont, paraît-il, les plus grandes, les meilleurs dirigeants d'entreprise, comme Madame Anne Lauvergeon, qui est agrégée de physique, qui sort de l'école des mines, avec tout l'État derrière elle, de gens qui ont fait l'ENA ou Polytechnique, et que tous ces gens-là, sachant pertinemment que ces sites étaient inexploitables et ne seraient jamais exploités, ou a occasionné des pertes majeures pour Areva, qu'ils ont acheté cette société Uramine pour 2,5 milliards, c'est qu'évidemment, ce deal cache autre chose. Et c'est ce que va découvrir Marc progressivement. Au début, il pense qu'il y a des délits d'initié, puis des choses pas claires. Est-ce que c'est une erreur de gestion majeure ou pas? Et puis rapidement, derrière son enquête, d'autres enquêtes seront engagées. Et on va véritablement se rendre compte que, en fait, c'est le pigeon qui voulait se faire plumer.
Oui. Et on parle de rétrocommission et de commission à des hommes politiques, notamment en Afrique du Sud, comme Thabo Mbeki, comme
Tout à fait, c'est un hebdomadaire, un quotidien sud-africain qui...
Men and Guardian.
Ouais, en 2012, si je me souviens bien, de la date, va sortir une longue enquête sur donc le volet sud-africain du Ramin, où là, les lois locales font que Uramin était obligé de s'associer avec des hommes d'affaires noirs pour exploiter son permis du gisement sud-africain. Et il se révèle que ces hommes d'affaires noirs sont tous des proches ou des intimes de Thabo Mbeki, qui est à l'époque le président d'Afrique du Sud. Donc on comprend bien qu'effectivement, derrière cette opération, se cachent d'autres opérations de corruption. Alors, est-ce que c'est Areva qui a voulu mettre en place cette corruption, ou est-ce qu'on a fait comprendre à Areva, qui à l'époque essayait d'avoir un contrat de 10 EPR en Afrique du Sud, que pour avoir ce contrat, il fallait laisser faire ce type de pratique? Voilà, moi je pose la question, là-dessus j'ai pas de réponse. Moi je pense que c'est effectivement un processus dans lequel on a obligé Areva à s'impliquer, mais ils ont accepté, donc ils sont responsables des actes de ce qu'ils ont fait après.
Avec nos deniers.
Avec, oui, l'argent du contribuable français, puisqu'il faut rappeler que Areva, et même si c'est coté en bourse, est à 85 ou 90% une société contrôlée par l'État français, que c'est le résultat de la fusion de deux entreprises qui étaient publiques ou parapubliques, qui s'appelaient Cogema et Framatome. Et donc, c'est l'argent, c'est notre argent qui a été dilapidé dans ces opérations. Et puis derrière, Marc va découvrir bien d'autres choses, bien d'autres scandales qui dépassent largement le cadre du Ramin, sur notamment aux États-Unis, une grosse opération de au moins de trafic d'influence et peut-être de corruption de l'administration américaine démocrate sous la présidence Obama. Voilà, donc pour rien en plus, pour aucun bénéfice concret pour Areva. Donc on a Areva durant cette période qu'on peut dater de environ 2005 jusqu'à 2011, mais aussi après 2011, parce que ça s'est poursuivi une fois qu'Anne Lauvergeon a été virée de la présidence du directoire. Donc durant au moins jusqu'en 2013-2014, durant toute cette période, les dirigeants d'Areva n'ont rien fait pour éviter que les fonds de la société soient pillés. Donc il était normal qu'elle termine en faillite, ce qui s'est produit en 2015.
Voilà, avec un coût social élevé, majeur.
Oui, oui, plusieurs dizaines de milliers de licenciements, mais avant même d'autres qui essayaient de freiner ces manœuvres qu'on peut juger frauduleuses de la direction d'Areva. Il y a des salariés en interne qui s'y sont opposés. Et généralement, on leur a fait comprendre soit qu'ils devaient partir, soit ils étaient virés plus ou moins proprement. Je sais, parce qu'on me l'a raconté, qu'à une époque, Areva faisait signer des clauses de départ avec une interdiction de parler à la justice, à ses salariés.
Est-ce que c'est légal ?
C'est contestable, en tout cas. Mais ça veut bien dire que Areva avait quelque chose à cacher. Alors ça s'est fait... Moi, les exemples qu'on m'a donnés, ça s'est fait après le départ d'Anne Lauvergeon. Donc, elle n'est pas responsable de ça. Je ne sais pas si ça s'est fait avant son départ. Je peux me poser des questions sur les conditions de départ de certains cadres qui travaillaient notamment au juridique ou à la finance. Mais j'en ai pas la preuve.
Bon, alors, donc tu as reçu deux assignations, Marc Échanger, une assignation, donc ça fait trois assignations. Procès, vous êtes convoqué à quelle heure, vendredi ?
Alors, vendredi, Marc, donc il n'y a que Marc et le Média et Denis qui sont en procès ce jour-là, Denis Robert. C'est le vendredi à 13h30. A priori, c'est une audience de fixation pour la véritable audience qui devrait juger sur le fond. Mais comme il y a un vice de procédure évident, c'est pas la peine qu'on fasse perdre du temps au tribunal. Et donc, Marc espère que le tribunal, jugeant de la non-validité de la plainte, la rejettera immédiatement, d'autant plus qu'il a tout fait pour informer, notamment le procureur, que cette plainte est viciée. Donc voilà, donc c'est à 13h30 à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris.
Bien. Alors, revenons sur toi. Ton travail aux médias. Parce que tu as travaillé aux médias pour ce livre, mais tu as fait d'autres enquêtes pour le média.
Alors, je précise tout de suite, je ne suis pas salarié du média. Moi, je suis arrivé aux médias comme pigiste, collaborateur extérieur, parce que je suis un copain de Denis Robert. On se connaît depuis 15 ans, de l'époque des affaires Clearstream. On a travaillé ensemble sur des projets communs de sites d'info, de documentaires. Et puis, donc c'est comme ça que Denis m'a proposé, d'une part, de parler du livre, de parler d'interviewer Marc Échinger. Et puis, d'autre part, il m'a convaincu d'apporter les enquêtes sur lesquelles je travaillais au site Le Média. Donc j'ai publié une longue enquête sur le groupe français Ruby, qui est spécialisé dans l'énergie et qui via sa filiale turque a participé, alors volontairement ou non, moi, c'est pas mon problème, au financement du groupe terroriste Daesh et contre lequel l'État français n'a mené aucune action. Donc, et je suis abasourdi que quand cette enquête a été publiée au mois de juin, elle n'ait eu aucune répercussion, que personne n'en ait parlé. Et alors qu'aujourd'hui s'ouvre, en tout cas, est en cours le procès Charlie. Alors Charlie, c'est un peu différent parce que c'est les frères, c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc c'est pas directement Daesh, mais en tout cas Koulibaly, il me semble que lui se réclamait, ou en tout cas Daesh a revendiqué la tuerie de l'hypercacher de Vincennes. Donc je suis étonné que les parties civiles ne se soient pas manifestées et que les avocats qui représentent les parties civiles, que ça soit donc de l'hypercacher ou du Bataclan et des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et aux abords du Stade de France, n'est pas donné suite à aux contacts qu'on avait initiés. On a contacté les associations, on a contacté des avocats, notamment une avocate du Bataclan. Personne n'a donné suite, alors même qu'aujourd'hui, on a identifié, il y a une deuxième entreprise française qui est identifiée aussi, et Maxime Renaï a sorti une longue enquête aussi sur Tereos, un producteur de sorbitol, dont les sacs, c'est un dérivé du sucre qui permet de fabriquer du carburant pour fusées et pour bombes, donc, et dont les sacs ont été retrouvés dans des cachettes de Daesh. Donc voilà, c'est surprenant que les victimes de Daesh qui a pu fonctionner grâce au pétrole, grâce au financement que certaines entreprises extérieures lui ont apporté directement ou indirectement, que ces victimes ne se retournent pas contre ces entreprises. Moi, j'arrive pas à le comprendre et j'arrive pas à comprendre pourquoi les avocats refusent de nous répondre.
Présente Maxime Réani en quelques mots.
Maxime Réani, il a un profil assez similaire de Marc, mais lui n'était pas agent de renseignement, c'était une source des services de renseignement. Maxime Réani a d'abord une première vie dans la finance offshore, dans des paradis fiscaux. Et quand il découvre ce que son métier lui apporte, il décide d'informer la DGSE. Pour livrer justement cette masse d'informations, comment l'argent disparaît dans ces paradis fiscaux, et il va très vite déchanter, ou assez rapidement déchanter, au point qu'au bout d'un moment, il claque la porte, parce qu'en fait, il se rend compte que la France ne veut pas lutter contre, obtenir des informations contre des groupes étrangers, mais les informations qui concerne les entreprises françaises, là c'est pas touche, il est hors de question. Donc voilà, donc il déchante rapidement et donc il va démissionner, il va sortir un livre qui va faire du bruit.
Oui.
Et
aux arènes.
Et aujourd'hui, il est devenu journaliste et il travaille aux médias et c'est aussi Denis qui l'a fait venir aux médias. Et il travaille sur le pôle investigation pour développer l'investigation, les enquêtes aux médias. Donc, il sort beaucoup d'informations, évidemment, parce que lui aussi, il a cette pratique. Il connaît les réseaux, etc. Et donc, voilà. Donc, c'était quelque chose. Ce service d'investigation qui se développait avec, on peut aussi citer Marc Andevelde, on peut citer Thomas Dietrich. C'était quelque chose qui était en train de prendre son essor, qui apportait un plus une plus-value incroyable aux médias, qui offrait aussi une alternative. Et moi, je pense que c'est bien, c'est sain démocratiquement d'avoir une alternative à Mediapart. J'ai évidemment rien contre Mediapart, ils font un super boulot, mais c'est plus il y aura de sites d'information qui vont développer l'investigation, plus on pourra sortir d'affaires et meilleure sera l'information du grand public. Donc c'était bien que Mediapart ne reste pas seul sur ce créneau de la presse en ligne de qualité. Et puis, il y a quelques jours, une partie de l'équipe du média a voulu fomenter un espèce de putsch contre Denis Robert, qui était directeur de la rédaction, en lui annonçant qu'il était viré. Donc évidemment, moi, je me suis mis en retrait, je ne participe. J'avais une enquête que je devais publier sur EDF, qui était promise aux médias et qui ne sera pas publiée par le média. J'en suis vraiment désolé, mais moi, j'y suis allé pour Denis. Les manières de faire de la direction du média sont juste incompréhensibles.
Mmh. Alors, je ne sais pas si Jean-Mi a préparé le... Jean-Mi me fait signe que la pause musicale peut avoir lieu et nous revenons après sur les méthodes du média.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable. On joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi. Il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de loin. C'est un champ de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre et l'or noir que tu n'as pas. Pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains jusqu'au bout de l'enfer. Au plus vite, ne dis rien sous cette pluie de fer. N'en parle jamais toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama, au-delà mes aspères. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière. Mon amour,
chers auditeurs de Pas de Quartier, supplémentaires, aujourd'hui, je reçois Thierry Gadeau pour parler donc du livre « L'homme qui en savait beaucoup trop » aux éditions Massot et Le Média, sous-titré « Révélation d'un agent au cœur des secrets d'État ». Alors, quelques mots encore sur Le Média. Donc, ton enquête sur EDF, tu es spécialiste d'EDF, je t'ai reçu régulièrement. Donc, toutes les émissions qu'on a faites ensemble sur EDF sont sur le site du groupe Louise Michel.
Oui.
D'ailleurs, celle du 19 mai, on avait commencé par faire le constat sur EDF, qui est en cessation de paiement.
qui était potentiellement dans une situation financière très difficile. Et ça s'est vérifié, effectivement, quand ils ont publié les comptes semestriels, parce qu'ils ont été impactés de plein fouet par la crise économique provoquée par ce confinement généralisé, dont on peut douter de l'intérêt, malgré tout. La crise économique, l'effondrement de la consommation d'électricité, donc les comptes sont au rouge, ils sont dans de très très grandes difficultés, mais là mon enquête porte pas sur ça, en fait c'est une suite du bouquin du livre que j'ai écrit avec Hugues Demeux nucléaire
Danger immédiat, pour lequel je l'avais reçu,
dans lequel on racontait l'état des cuves des réacteurs nucléaires, et il y a une cuve particulièrement qui déjà nous inquiétait à l'époque, qui s'appelle la cuve du réacteur de Tricastin 1, et donc c'est la première qui a passé les 40 ans, et cette cuve est fissurée de partout, est très fragile, et donc je fais une enquête et avec les documents internes d'EDF, évidemment, pour montrer que EDF ne dit pas la vérité, et toute la vérité, et seulement la vérité, sur l'état réel de cette cuve qui aurait dû être arrêtée il y a 10 ans déjà. Et malgré ça, ils font tout pour obtenir une prolongation. Donc j'explique comment tout ça est possible. Donc ça, c'est l'enquête que je devais fournir
aux
médias, qui sera certainement publiée par un quotidien du matin dont le nom commence par Libé et se termine par Ration. Sauf que à midi, j'ai appris que EDF avait appelé à Libération pour se plaindre.
Ah.
Donc je ne sais pas du tout si cette enquête sera publiée in fine par Libération ou pas.
D'accord, affaire à suivre.
Voilà.
Bien, donc revenons au livre, L'homme qui en savait beaucoup trop.
Oui.
Je voudrais que tu... Alors, le livre est vendu à un prix dérisoire de 19 euros, mais vraiment, c'est un prix dérisoire, sachant l'enquête, le travail que tu as fourni pour aider Marc à mettre en forme son histoire.
C'est gentil, c'est...
Non, c'est sincère.
Moi, j'ai surtout aidé Marc à mettre en forme son histoire, à raconter, à essayer de rendre grand public, parce que Marc... c'est loin d'être un imbécile, évidemment, puisque il a été directeur de salle de marché, il sait écrire, mais lui, il écrit dans une perspective, il a pris tellement l'habitude de faire des rapports d'enquête pour les services d'enquête, parce qu'il travaille beaucoup, il informe beaucoup la police judiciaire, les juges ou des services étrangers sur les scandales qu'il déterre. Donc lui, il a une forme, il est très, ça a une forme un peu particulière. Donc pour rendre la lecture agréable pour le grand public, pour comprendre les tenants et les aboutissants, il fallait faire un peu de travail de mise en forme de tout ça. Donc c'est ce que je me suis... ça a été mon rôle dans cette aventure et l'aider à construire son récit. Donc c'est vraiment... C'est un livre qui est écrit à la première personne. C'est vraiment la voix de Marc. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il réfléchit. On voit que de temps en temps, il peut sauter une idée en traînant une autre. Il peut sauter du coq à l'âne. Mais c'est vraiment... Et ce qu'il raconte... C'est pas seulement l'affaire Areva ou toutes les affaires Areva. Il a une expérience de la corruption, de la grande criminalité internationale qui va bien au-delà. Ce qu'il a constaté les effets de ces affaires, de cette corruption sur le terrain et notamment en Afrique, dans les pays les plus pauvres du monde. Et il a passé notamment 8 ans au Niger, donc il sait ce que c'est, quoi. Il l'a vu de ses yeux. Il le racontait notamment lors de l'interview sur le média qui est toujours en ligne, qu'on peut voir. Voilà, il a vu des jeunes femmes mourir en couche. Il a vu des enfants mourir de l'appendicite, des choses comme ça. Enfin, des trucs qui n'existent plus dans les pays normaux, quoi. Et il a vu aussi la montée en puissance de ces mouvements de l'islamisme radical qui débouche parfois sur le terrorisme. Donc toute cette misère-là engendrée par la corruption, entretenue et quelque part encouragée par la France, le rend fou. Le rend véritablement fou. C'est son combat aujourd'hui, c'est de dénoncer tout ça, c'est d'enquêter sur tous les scandales. Dès qu'un journaliste a besoin d'aide pour remonter des piles, des pistes, des filières, etc., il prête son concours gratuitement. C'est vraiment parce qu'il a des ressources qui sont hors de proportion pour un journaliste. Il a accès à des sources de renseignements liées à son passé d'agent et de directeur de salle de marché. Et donc c'est voilà, c'est aussi ce qu'il raconte dans ce livre. C'est comment cette corruption a gangréné, a détruit l'Afrique de l'intérieur, mais comment aussi elle est en train de détruire la France de l'intérieur de la même façon. Donc
il y a un effet boomerang.
Oui, tout à fait, parce que nos élites sont tellement habituées à avoir de l'argent facile,
oui,
qui n'a pas d'odeur, soi-disant. Ouais. Ils ont quand même du sang sur les mains avec cet argent. Et donc, et c'est vrai que c'est aussi une colère que je partage avec Marc, du fait de mon passé, de ma famille, etc. Mais c'est vraiment, c'est inacceptable, inacceptable que la France soit toujours ce pays corrompu et qui encourage la corruption dans le monde entier. C'est juste, c'est tellement abominable.
Alors, ça, c'est, pour l'Afrique, ça s'appelle la France-Afrique ou la mafia-Afrique, selon les... je renvoie à l'association Survie qui fait un travail de décryptage de ce phénomène, qui a un site internet survie.org. Actuellement, le combat, c'est pour sauver le Niger. Le Niger, du fait de la déforestation et du fait de la pauvreté et d'un certain nombre de problèmes, et la proie des crues. C'est-à-dire que tout a été emporté, même les murs. Oui. Les gens sont démunis à un point inimaginable.
Mais la saison des pluies a un effet sur toute la bande sahélienne, mais particulièrement au Niger, désastreux. Ça emporte toutes les rares infrastructures encore un peu qui existaient encore, ont été emportées. Et quand on connaît le niveau, c'est un pays déjà où le revenu moyen par habitant est de 1 dollar. Donc par jour, par personne, donc c'est rien. Ils vivent dans la misère est le quotidien, la pauvreté, la faim, c'est le quotidien de l'immensité de cette population. Et quand on sait que de 2016 à 2019, il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été détournés du budget de la défense du Niger pour tomber dans les poches soit de dirigeants politiques nigériens, soit d'escrocs, d'hommes d'affaires pourris qui sont fichés S par ailleurs en France.
Oui.
Au vu et au su de la France qui n'a rien fait.
Oui.
Pour arrêter cette corruption, ces détournements massifs, quand on sait que l'armée nigérienne est habillée en guenilles avec des fusils qui doivent même pas dater de 14-18 et qui se font massacrer en permanence.
Par les djihadistes.
Par les djihadistes. Voilà où passe l'argent que l'Europe a donné, les budgets notamment financés un certain nombre par l'Italie. Voilà, l'argent a été détourné et tombé dans des poches privées. Et ça, la France, au lieu de lutter contre, a laissé faire.
Pour ne pas dire encourager.
Pour ne pas dire encourager.
Parce qu'on sait qu'à la tête de ces réseaux, il y a des gens bien précis. On ne va pas les citer. Mais bon, il y a un certain nombre d'articles qui circulent sur Internet.
La
sur
presse nigérienne est très courageuse.
Oui.
Parce que c'est quand même une dictature. C'est une démocratie, mais en forme de dictature, présidée par un ancien cadre d'Areva au Niger.
Tout à fait.
N'oublions pas notre rôle là-dedans.
Ouais.
Et la presse locale est très courageuse, puisque c'est elle qui a sorti le rapport d'enquête, c'est elle qui a publié le nom des gens mis en cause. Évidemment, la justice a blanchi tout le monde. Hein. Le dossier n'a même pas été ouvert, qu'il était déjà refermé. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Je veux dire, quelque part en France, on essaye aussi, d'une façon ou d'une autre, de blanchir les élites accusées de corruption. Donc, quelque part, on partage le même sort. Mais voilà, faut savoir ça. C'est cet impact. Et puis l'impact sur la misère du pays, quoi. C'est juste tellement désastreux. Il y a d'autres scandales aujourd'hui en Guinée-Conakry. Enfin, voilà.
Alors, sachant que la Guinée-Conakry, le président veut se représenter pour un troisième mandat. agenda et que la population est contre et qu'elle se bat contre ça et qu'elle meurt toutes les semaines sous les balles de la police.
Tout à fait, mais c'est des informations que vous ne verrez pas dans la presse française.
Non.
Parce qu'on ne parle pas des amis de la France, on ne parle pas du Niger, de la même façon qu'on ne parle pas de la Guinée, dont le président est un vieux compagnon de route de l'international socialiste. Il a même été un protégé de Pierre Mendès France, et quand on voit aujourd'hui ce qu'il est devenu, c'est à pleurer.
Quand on pense qu'à une époque, il était persécuté par le président de l'époque, Conté.
Oui, tout à fait.
Et on l'a protégé.
Et on l'a protégé, oui, la France l'a protégé. Et c'est vrai que quand il prend le pouvoir, il a 72 ans, donc c'était en 2010 ou 2012, je ne sais plus.
2010.
Donc à 72 ans, on se dit que ce n'est pas lui qui va commencer une carrière de prédateur, de kleptomane et de dictateur sanguinaire. Bah si, voilà. L'une de ses premières décisions, c'est d'annuler 800 permis miniers et de les redistribuer à des sociétés dont les propriétaires gravitent dans le cercle du président ou de ses principaux ministres. Et puis voilà, et donc permis à des petits aventuriers français de s'enrichir. Une société qui s'appelle AMR, c'est voilà. Aussi une enquête publiée
par le Média,
c'est le journaliste Thomas Dietrich qui l'a fait avec l'aide de Marc, justement. Dans cette société, on retrouve qui ? On retrouve Anne Lauvergeon.
Alors, il y a aussi un autre dossier plus ancien, international celui-là, parce qu'il est entre France, Israël et Suisse, qui est le dossier Simandou, avec Benny Stenmetz et Nicolas Sarkozy.
Oui, la grande mine de fer, enfin le grand gisement de fer.
De mais Simandou.
Ce pays, Guinée-Conakry, il faut le savoir, c'est un pays béni ou
maudit
des dieux, parce qu'il a des ressources minières absolument incroyables sur un si petit territoire. C'est l'une des plus grandes réserves au monde de bauxite. C'est un gisement, je crois que c'est la première mine potentielle de fer dans le monde avec ce gisement. Et malgré tout, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est là où on voit que tout, parce qu'évidemment, les régimes successifs ont tout fait pour s'enrichir et pour détourner l'argent qui sortait de ces activités minières, et que pendant ce temps-là, la population mourait de faim ou quasiment, et rien n'était fait pour son développement. Et donc, on continue, et la France continue à encourager ce genre de pratiques. C'est vraiment c'est déplorable.
Ouais, c'est vraiment à pleurer. Alors, pour en revenir à Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre pour nous inciter, mais je crois que là tu as fait le tour pour le livre, à nous précipiter. Donc c'est aux éditions Massot, M-A-2-S-O-T, Le Média, 19 €. Donc,
dans toutes les bonnes librairies, ou pour ceux qui préfèrent en numérique aussi, on peut l'acheter aussi sur les sites d'e-commerce des librairies françaises et pas étrangères. Hein. Moi, je recommande les librairies françaises.
Oui, donc il y a la librairie Publico, 145 rue Amelot,
par exemple,
dans le 11e arrondissement. Très vite, il y a l'interview, le lien vers l'interview du Média de Marc Essinger sur le site de son éditeur Massot.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On peut toujours voir l'interview, donc qui a été réalisée début mars et qui a été diffusée début avril sur le média tv.fr et sur la page YouTube du média. Récemment, on était à plus d'1,8 million de vues. Ce qui est une audience extraordinaire pour le média et pour une interview. L'interview est un peu longue, mais elle est passionnante.
Écoute, elle dure 1 minute 19, mais elle est passionnante. Il n'y a pas...
Une heure.
Elle dure plus d'une heure. Oui. Plus d'une heure. 1 heure et 19 minutes, si mes souvenirs sont exacts. On ne s'arrête pas. Une fois qu'on l'a mis, on l'a enclenché. On reste jusqu'au bout.
Et puis on voit là, je pense, la sincérité de Marc, parce qu'on pourrait penser c'est un trader financier. Lui aussi a profité du système. D'ailleurs, il s'en cache pas. Il dit aussi que à l'époque, il était un petit con et que bon, il voyait pas la conséquence de ses actes. On peut aussi penser ouais, mais c'est un barbouze, c'est tout ça, les réseaux, l'Afrique, le truc, le machin. Mais je pense que pour le connaître maintenant, pour bien le connaître, puisqu'on travaille ensemble depuis 5 ans, c'est vraiment quelqu'un d'honnête, hein, et ce qu'il dit, il le pense, et je pense que ça se voit dans ses yeux, de la façon dont il parle de son expérience, que ça soit en Irak ou en Afrique, et notamment au Niger. On sent que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour lui. Alors, il en fait pas état, parce que il a appris à se protéger, à protéger ses émotions, mais voilà, c'est la première fois que je trouve un témoignage de cette force de quelqu'un qui a été à l'intérieur du système, qui a essayé de le dénoncer, de le changer, qui n'y est pas parvenu, et aujourd'hui il livre sur la place publique tout ça, et il accuse nommément les gens de ce qu'ils ont fait, donc il mérite d'être lu. Je pense.
Et c'est à nous de nous en emparer pour essayer de changer les choses.
Tout à fait.
Parce que de toute façon, avant de changer les choses, il faut être informé. Donc le travail d'information est quelque chose de primordial.
Oui.
Et c'est pour ça que nous sommes atterrés par ce qui se passe aux médias. Donc nous avons appris aujourd'hui que Denis était licencié du média.
C'est dans tous les sens, ça va dans tous les sens, mais en même temps, ils ont fait une telle procédure jusqu'à présent, c'est qu'ils vont se retrouver au prud'homme, et au prud'homme, ils vont perdre.
Mais quel gâchis en attendant.
Oui, c'est un gâchis immense, parce que il y avait des compétences, il y avait déjà des compétences internes dans le média. Je pense à Mathias Antoven qui dirigeait le pôle en ligne, qui était le numéro 2, le bras droit de Denis, au moins dans les faits, si ce n'est dans le titre, qui est quelqu'un de super, qui faisait un super boulot sur toutes nos enquêtes.
Et c'est quand il a voulu le nommer, en fait, que ça a commencé à poser problème, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça. C'est quand il a voulu effectivement faire son rédacteur en chef, parce que celui qui occupait la fonction sans avoir totalement le titre n'était pas capable d'assurer cette mission de rédaction en chef, et c'est là où ça a dégénéré, où une partie de l'équipe a fait la chasse au Denis Robert, et c'est lamentable, parce que voilà, il avait redressé, il avait permis le redressement du média, il avait permis aux médias de rééquilibrer ses comptes, de se remettre à obtenir de l'argent pour financer du contenu de qualité. Il y avait plein de projets de développement. Il y avait une équipe de journalistes d'investigation indépendants. Donc, on les a cités. Maxime et Alexandre Renaï, Marc Andevel, Thomas Dietrich.
Alexis Poulain.
Ouais, voilà. Tous ces gens qui venaient de l'extérieur, qui apportaient leurs compétences, leur savoir, leur qualité journalistique, qui pouvaient permettre d'enrichir les contenus produits par le média. Et tout ça s'écroule aujourd'hui. C'est vraiment triste, tout ça. Mais on comprend même pas. On comprend même pas pourquoi, quoi. C'est ça le pire. Pourquoi ils se suicident? C'est un peu ça, quoi. C'est du suicide organisé en bande, là, cette petite bande. On peut s'interroger sur le fonctionnement quelque part un peu sectaire. De quoi avait-il peur? Moi, j'ai jamais demandé à être embauché aux médias. Moi, j'ai d'autres activités. Par contre, ça me faisait plaisir de les aider, de leur proposer mes enquêtes et de participer au développement et de faire en sorte qu'il y ait une voie alternative en ligne, une presse de qualité qui... Voilà, voilà, ils viennent de s'aborder tout ça, donc c'est une belle aventure. Ça aura duré un peu moins d'un an avec Denis. Ben voilà, donc ouais, c'est une triste fin, et surtout ça va leur coûter très cher, parce que ils ont fait tellement mal les choses que ils seront forcément condamnés par les prud'hommes.
Oui, et puis je crois qu'ils avaient une trésorerie d'avance de 400 000 euros.
Oui, c'est ça, ils avaient un trimestre de fonctionnement d'avance qui n'était jamais arrivé. Il y avait une nouvelle campagne de dons qui devait être lancée, je ne sais plus, en octobre ou novembre, que Denis devait animer. Enfin, il rend impossible la levée de dons, évidemment. Il y a de très nombreux socios, donc ce sont les gens qui sont abonnés et qui payent un abonnement mensuel ou sous forme annuelle aux médias et qui ont... voient la parole normalement, mais on leur refuse cette voix à la parole. Donc, il y en a plein qui ont annoncé qu'ils partaient, qu'ils arrêtaient de payer, etc. Donc, il va y avoir une hémorragie dans leur capacité à lever des fonds. Enfin, pourquoi se suicider comme ça, quoi? C'est juste incompréhensible.
Je suis désolée.
Donc, on peut espérer... Denis a aussi plein d'activités, plein de travail par ailleurs, donc j'espère qu'il va pas être dégoûté, qu'il aura envie de poursuivre cette expérience Alors, ça s'appellera plus le Média, ça sera peut-être... mais bon, qui continuera ce travail, parce que ce qu'il avait commencé à monter, c'était génial, et que, ouais, faut d'une façon ou d'une autre rebondir, et rebondir positivement. Donc, peut-être en le faisant dans un autre cadre, sous un autre nom, on aura la capacité, voilà, de... et puis, je pense que tous les gens qui apprécient le travail de Denis, ce qu'il met en place, sa combativité, ses combats, continueront à le soutenir. C'est ça, le principal.
Alors, Thierry, j'en profite, puisqu'on a encore un peu de temps devant nous avant que la CNT. On me fait signe qu'on a très peu de temps. Ils sont en train de se préparer à venir prendre leur l'antenne.
D'accord.
Très vite, quelques livres... Les Fossoyeurs des services publics, EADS, La guerre des gangs, Nucléaire, Danger immédiat, Le vrai salaire des patrons, pour lequel je t'avais reçu.
Arrive à mon amour, Plonger en eau trouble. Et puis, alors, je profite pour me faire un peu de pub à 30 secondes, et ça sera mon dernier mot. Le 5 novembre, je sors un nouveau livre avec Hugues Demeude, donc avec qui j'ai écrit le livre sur le nucléaire. Ce nouveau livre, alors on sort complètement, on change de secteur, ça s'appelle « Massacre à la tronçonneuse, nos forêts en état d'urgence ». Donc c'est un livre sur la forêt française et comment la forêt française est en train de s'effondrer aujourd'hui et comment dans le même temps l'État fait tout pour démanteler l'Office national des forêts qui est l'établissement public qui gère les forêts publiques et qui pour essayer de privatiser la gestion forestière complètement et privatiser les forêts domaniales. Donc c'est un vrai sujet extrêmement grave parce que la forêt ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Or on est en train de favoriser une exploitation criminelle industrielle de la forêt et donc tout ça pour une question d'argent. Donc voilà, c'est ce qu'on raconte dans ce prochain livre. Ça sort le 5 novembre.
Chez quel éditeur ?
Au Cherche Midi.
Au Cherche Midi.
Oui, je renoue avec l'éditeur de mes deux premiers livres.
Voilà. Merci Thierry.
Merci
je
beaucoup,
rappelle
Mariama.
L'homme qui en savait beaucoup trop chez Masso Édition et Le Média Édition. Donc nous allons recevoir, vous allez pouvoir entendre la CNT. Merci de m'avoir écouté depuis 18h. C'est un l'actualité l'obligeait. Donc vous pouvez réécouter ce podcast les émissions et ensuite sur le site du groupe Louise Michel. Merci chers auditeurs et à dans 15 jours.
Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. On m'a cassé les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nure. Et s'ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rajah de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le chiffre de l'humain. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. Je dis blousé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous a bouche est sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Putain, monsieur l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs, la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse trouve la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse trouve la preuve.